le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine citoyen sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. On va revenir ce midi sur cette année scolaire qui a été plus que perturbée par les violences de mai, l'occasion de faire aussi un petit peu de pédagogie, notamment pour les parents d'élèves qui se posent peut-être des questions concernant leurs enfants. Pour en parler autour de cette table, le vice-recteur Didier Vindatich, Isabelle Amiot, coordinatrice de l'inspection pédagogique au vice-rectorat, Julien Leray, chef de la division examen et concours au vice-rectorat, et Sylvain Once, le président de la Fédération calédonienne des parents d'élèves. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je me tourne vers vous, monsieur le vice-recteur. Peut-être pour commencer, rappeler le contexte de cette année. C'était pas gagné de faire des examens en fin d'année quand on a vu la crise qui s'est abattue sur la Nouvelle-Calédonie en mai.
Exactement. Je crois que vous avez tout à fait raison. Lorsque la crise s'est déclenchée au mois de mai, avec la violence que chacun sait et le choc que cela a représenté sur le fonctionnement de notre système éducatif et de ses personnels, de l'ensemble de ses personnels, on n'était pas du tout certain de pouvoir organiser une session d'examen à la fin de l'année 2024. Donc, imaginez-vous l'effet produit si on avait fait une année blanche sans donner aux élèves la capacité, à leur famille, la capacité de poursuivre leur scolarité, une fois le baccalauréat, par exemple, en poche, pour aller à l'université ou ailleurs. Bon. Donc, il fallait absolument qu'on trouve une formule. Et la formule, effectivement, qui nous a paru la plus adaptée, ça a été de recourir au contrôle continu pour l'ensemble de nos épreuves d'examen de cette année, comme nous l'avions fait en d'autres temps, avec des résultats plutôt satisfaisants que l'on sait, je pense en particulier à la période Covid. Et aussi, tout simplement, parce que quand des élèves perdent de nombreuses semaines de cours, comme ça a été, disons, le cas pour nous, nos établissements ont perdu entre 3 et 10 semaines de cours, on est en train d'en rattraper un peu des semaines de cours puisque l'année va être plus longue, puisqu'il n'y a pas d'examen à organiser dans les établissements. Donc c'est bien, on récupère un peu de temps d'apprentissage. Mais quand les élèves perdent autant de semaines de cours, il y a deux formules. Soit on allège les programmes, mais on ne peut le faire que lorsque les sujets ne sont pas rendus disponibles et qu'on peut envisager les parties du programme sur lesquelles ne pas interroger. Mais ça, on ne pouvait pas faire ça, parce que les sujets étaient déjà faits, confectionnés et cachetés, secrets. Et donc la seule alternative pour nous, c'était de recourir au contrôle continu, de garantir aux élèves et à leurs familles de pouvoir obtenir un diplôme à la fin de l'année en les interrogeant sur les seules parties du programme traitées pendant les temps de présence ou en distanciel dans les établissements.
Monsieur le vice-recteur, vous parliez de rattraper le retard. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut quantifier la perte dans les programmes, ce qui n'a pas été vu par les élèves? Je suppose que les situations sont d'ailleurs très disparates en fonction des établissements.
Alors, c'est très disparate, notamment parce que certains établissements ont pu reprendre une activité presque normale à la mi-juin, lorsqu'on a relancé la machine scolaire, que d'autres ont mis plus de temps, tout simplement parce que le rythme avec lequel, la rapidité avec laquelle les établissements ont repris dépendait de nombreux facteurs externes au fonctionnement de l'école. C'était le sentiment de sécurité que les populations pouvaient éprouver en renvoyant ou pas leurs enfants dans nos écoles. C'était les accès qui étaient ici ou là difficiles et qui empêchaient des professeurs ou des personnels non enseignants ou bien des élèves d'accéder à leurs établissements. Et puis les réparations. On ne pouvait pas placer les élèves dans des établissements dégradés avec des vitres cassées, dangereuses, etc. Donc il a fallu aussi que la collectivité qui en charge les établissements puisse entreprendre un calendrier de travaux permettant de restaurer donc nos établissements. Donc effectivement, il y a eu quand même beaucoup de temps perdu. Bon, moi j'estime que on récupère quasiment 2 à 3 semaines d'enseignement en cette fin d'année scolaire parce que toutes les échéances sont repoussées. Qu'il y a eu du présentiel, on peut pas considérer que le distanciel ça ne compte pas. Moi, les semaines pendant lesquelles les élèves n'allaient pas à l'école mais étaient pris en charge en distanciel, sont des années qui comptent. Et donc, on a même, dans les pires des cas, ce n'est pas 10 semaines qu'on a perdu, c'est beaucoup moins. Hein, c'est peut-être, puisque le distanciel s'est imposé dès la mi-juin. La consigne, ça a été de compenser l'absence de présentiel par du distanciel à partir de mi-juin. Donc, on aurait perdu 5 à 6 semaines. On en récupère 3 ici en fin d'année grâce à l'organisation de fin d'année. Bon, la situation, est beaucoup moins dramatique que ce que certains pourraient penser. Et je pense que c'est vraiment l'esprit de l'émission, ça, c'est de rassurer les parents sur l'idée qu'on organise une fin d'année qui, normalement, sécurise les parcours scolaires et débouchera sur une génération de diplômes et de diplômés qui permettra à chacun de poursuivre leur parcours scolaire et universitaire.
Julien Leray, vous êtes chef de la division examens et concours au vice-rectorat. Comment on met en place un examen un petit peu particulier sur une année pour garantir aussi l'égalité et l'équité face au diplôme ?
Effectivement, moi j'ai tendance à dire que l'examen a bien lieu cette année. C'est les épreuves ponctuelles qui n'auront pas lieu. Donc l'examen a lieu sur toute l'année par les évaluations en contrôle continu qui sont prises en compte depuis le début d'année jusqu'à l'arrêt des notes un peu avant les délibérations. L'examen en soi reste le même. La délibération, que ce soit du DNB jusqu'au BTS en passant par le baccalauréat, reste sous la même forme. Donc on aura un universitaire pour nous présider les jurys, pour analyser les notes avec le concours de son jury. Donc tout ça, on l'organise aussi. C'est le recueil des notes se fait de façon un peu différente parce qu'on recueillera les notes de contrôle en cours de formation, ce qui se faisait déjà. On recueille les notes de contrôle continu. 40% du bac est déjà évalué en contrôle continu. Donc ça, rien ne change. On sait le faire. La moitié du DNB aussi, les éléments du socle, on sait le faire. Ce qu'on n'aura pas cette année, c'est des notes de copie anonymées et des notes d'interrogation orale. Mais on les obtiendra par le contrôle continu sur les préconisations de l'inspection. Et avec un regard particulier sur l'harmonisation des pratiques. On a déjà donné les consignes générales à tous les établissements et à l'ensemble des enseignants qui savent déjà mettre en œuvre le contrôle continu de toute façon.
Et est-ce que le diplôme aura la même valeur? Si on vous écoute, oui, mais est-ce que dans l'imaginaire collectif peut-être d'un chef d'entreprise demain ou autre, voyant bac 2024, se dire finalement c'était un bac qui vaut moins que celui de 2023 par exemple?
On n'a pas entendu ça avec l'examen délivré à l'année du Covid. On n'a pas entendu ça, au contraire, l'année où on a, souvenez-vous, corrigé pour la première fois le baccalauréat en Nouvelle-Calédonie. Je crois qu'on vous garantit en Nouvelle-Calédonie l'exigence du diplôme, et cette année en particulier. Hein, on sait que les diplômes délivrés en Nouvelle-Calédonie sont une affaire d'État. Et actuellement, il y a 5 décrets qui sont en cours de signature du Premier ministre, du ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et du ministre de l'Agriculture pour garantir et exiger la teneur du diplôme en Nouvelle-Calédonie.
Sylvain Onze, quelles sont les inquiétudes aujourd'hui des parents d'élèves justement pour ces classes diplômantes? Ça fait partie, ça, le fait de réorganiser, d'avoir un diplôme continu?
Non, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude particulière. L'important, c'est ce que dit M. Leray, c'est que le diplôme, il garde sa valeur. Que je veux dire, les parents ont souvent peur que le diplôme soit dévalué. On l'a connu pendant la Covid-19. Le diplôme qui est sorti de là n'a posé aucun problème et a permis la continuation des études, même dans des secteurs un peu ardus. Donc aujourd'hui, je crois que ce qui est important, c'est de dire aux parents, le diplôme, il n'y a pas de dévaluation du diplôme, il a la même valeur. L'organisation de l'examen, que ce soit en contrôle continu, c'est pas un problème dont les parents ont connaissance, forcément. Je veux dire, eux, c'est le résultat. Le bac, il est obtenu ou pas, mention ou pas. Mais je rappelle que les bons élèves, que ce soit en contrôle continu ou pas, ceux-là auront le bac avec mention. Il n'y a aucun souci, parce que ce sont des bons élèves. Mais tous les autres auront aussi le diplôme, il n'y a pas de raison. Simplement, comme chaque année, quand il y a des problèmes comme ça, l'administration regarde avec bienveillance, on va dire, entre guillemets, les copies pour éviter qu'il y ait trop de problèmes. Mais moi, je sais qu'on n'est pas inquiet parce que le diplôme, il gardera sa valeur et que tous les enfants pourront continuer leur cursus sans souci.
Alors le contrôle continu, ça pose une autre question aussi, c'est les gens qui n'ont peut-être plus accès à l'école, peut-être en termes de taux de fréquentation, vous pourrez nous donner des éléments là-dessus. On sait qu'il y a eu des problèmes de transport en commun, qu'il y a peut-être des problèmes aussi financiers dans les familles. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les élèves peuvent bien se rendre dans les lieux de cours, dans les hors établissements et pouvoir avoir accès à ce contrôle continu?
Et donc ça, c'était notre sujet de préoccupation majeur, je dirais, au mois de juin, mois de juillet, où effectivement, il y avait un absentéisme fort compréhensif d'ailleurs. qui était important. Et donc, en passant en régime de contrôle continu, il nous arrivait l'idée de dire, si on ne vient pas à l'école, on n'a pas de notes. Si on n'a pas de notes, on n'a pas de diplôme. Ça devient... par chance, les familles ont entendu nos messages de renvoyer leurs enfants dans nos écoles. On a fait un suivi très fin de nos élèves pour savoir pour quelles raisons certains d'entre eux ne revenaient pas. Je crois aussi qu'on s'est montré relativement bienveillant à l'égard des élèves qui étaient... On arrive à distinguer, si vous voulez, des élèves qui ne viennent pas parce qu'ils sont empêchés de venir contre leur gré, d'élèves qui ne viennent pas parce qu'ils n'ont plus envie de venir. C'est deux cas de figure que le service des examens aujourd'hui arrive à bien traiter, qu'on arrive, nous, à identifier. Et donc, on s'est montré bienveillant à l'égard des élèves empêchés, en prenant pas de sanctions démesurées ou particulières, et au contraire, en leur offrant des opportunités de distanciel, voire d'obtention de notes par le distanciel. Parce que vraiment, tous les efforts ont été faits par les chefs d'établissement et leurs équipes pour que nos élèves se retrouvent ici au mois de fin novembre, là, avec une quantité de notes, entre guillemets, suffisante dans chaque discipline, pour qu'on puisse faire la moyenne des notes dans chaque discipline, et sur cette base-là, attribuer ou pas une moyenne générale et donc le diplôme.
Et en règle générale, le taux de réussite est équivalent à un diplôme passé avec des examens sur table. C'est à peu près la même chose. C'est ce qu'on avait vu dans le cas de la crise Covid ou pas du tout?
Alors, moi, j'ai le souvenir qu'il n'y a pas eu, de situation particulière au moment du Covid, et que donc on est parvenu à diplômer dans des proportions habituelles, je dirais, les élèves. Donc, on fera un retour d'expérience sur la session 2024. Moi, je ne l'appréhende pas. Je crois, comme l'a dit monsieur, que les bons élèves continueront probablement d'avoir le bac, épreuve ponctuelle ou pas, grâce au contrôle continu. Je pense qu'il y a des élèves qui vont tirer un profit du contrôle continu parce qu'ils seront récompensés des efforts fournis tout au long de l'année et qu'ils auront une panoplie de notes qui leur permettra de compenser parfois une mauvaise note parce que ça n'allait pas, avec une note meilleure. Et au final, des élèves de ce type qui sont peut-être un peu fragilisés, qui de surcroît sont fragiles aussi parce que les épreuves ponctuelles, ça peut occasionner un stress particulier et faire échouer les élèves, tous ces facteurs-là disparaissent. Et donc, moi, je suis assez confiant. Les bons élèves devraient réussir. Et les élèves un peu plus fragiles, devraient tirer également profit d'un système par contrôle continu.
Alors, qui dit contrôle continu dit aussi accès à peut-être à certaines salles. On pense à des équipements peut-être dans les filières techniques, etc. Est-ce que ça aussi, c'est garanti que les gens pourront faire leurs épreuves dans tous les établissements? Est-ce que c'est organisé d'ailleurs en fonction peut-être des plateaux spécifiques pour certaines filières?
Alors là, vous parlez, je pense, des filières professionnelles.
Plutôt professionnelles, oui.
Exclusivement d'ailleurs, oui. Hein, puisque dans l'enseignement général, on ne sera pas confronté à cette difficulté. Dans les filières effectivement professionnelles, d'abord, vous savez bien que s'agissant du lycée Petro Attiti, parce qu'en fait, c'était le lycée qui nous préoccupait le plus, nous sommes parvenus à rescolariser la totalité des élèves des classes à examen cette année dans des établissements voisins offrant des formations voisines. Donc, normalement, la plupart de ces élèves du lycée Petro Attiti, des classes à examen, auront reçu la formation dont ils ont besoin pour réussir les examens. Et vous savez aussi la très belle opération qui a été effectuée pendant la première semaine des vacances d'octobre, où on a envoyé des élèves qui étaient privés d'enseignement faire une séquence intensive de rattrapage au lycée de Touau, pour leur permettre d'accéder à des plateaux auxquels ils n'avaient plus accès cette année. Et donc, on leur a donné les informations, les connaissances, les compétences dont ils avaient besoin. Et ces élèves-là sont en capacité aujourd'hui d'obtenir leur baccalauréat, donc professionnel. Donc, normalement, effectivement, ils devraient être en capacité de réussir aussi.
Donc, ça a été un gros travail du vice-rectorat tout au long de l'année pour pouvoir mettre en place ces examens, pouvoir réorganiser tout cela. C'est concrètement un gros travail des équipes,
y compris de nos partenaires, hein, parce que pour la voie professionnelle, le CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat a fait le même travail pour les alternants, qui sont aussi soumis au contrôle continu. Donc il a fallu les faire revenir sur des lieux externalisés, puisque là aussi, il y avait eu des restrictions comme à Petro Attiti, et ils sont en passe de gagner le pari aussi pour toute leur section. et présenter leurs candidats alternants aux examens par la voie du contrôle continu cette année. Donc c'est vrai qu'on a essayé de penser à tout le monde. Et la dernière catégorie de candidats pour lesquels on a une réponse, c'est les candidats individuels. Le candidat individuel ne peut pas être soumis forcément au contrôle continu puisqu'il n'en fait pas. Donc on a une session de remplacement tous les ans, fin février, début mars, pour les élèves généralement malades aux épreuves ponctuelles qui ont un justificatif d'absence. Là, on accueillera tous les candidats individuels concernés et qui seraient toujours volontaires pour présenter l'examen à la session de remplacement.
Et ça, ça représente quoi en termes de proportion
C'est une poignée de candidats.
C'est une poignée de candidats, d'accord. Ouais. Donc là, il y a quand même aussi une possibilité. Au niveau de l'inspection pédagogique au vice-rectorat, du coup, vous allez harmoniser. Comment ça se passe, l'harmonisation en termes des... d'établissements, etc.
Oui, alors le rôle de l'inspection pédagogique, il vient avant l'harmonisation, en fait. C'est-à-dire que là, je reviendrai sur ce que disait monsieur le vice-recteur, on est intervenu déjà sur comment enseigner quand on a perdu un certain nombre de semaines de cours, etc. Donc les inspecteurs ont travaillé avec les équipes pour pouvoir donner des consignes, parce que l'objectif est de permettre aux élèves de pouvoir passer dans la classe supérieure. Et donc d'avoir un certain nombre de connaissances, de compétences et d'acquérir également des méthodes. Ensuite, l'inspection pédagogique intervient aussi en travaillant avec la DEXCO donc sur la partie examen. Donc des consignes ont été données également aux professeurs pour pouvoir évaluer dans le cadre du contrôle continu. Donc là aussi, différents formats d'évaluation sont indiqués aux enseignants, donc ils les pratiquent tout au long de l'année. Et puis l'inspection pédagogique intervient, donc comme vous le disiez, sur la partie harmonisation, puisqu'on est dans le cadre d'un examen et donc d'un diplôme national, comme ça a été rappelé tout à l'heure, on a un certain nombre d'exigences. Et donc il appartient à l'inspection pédagogique justement de cadrer ces harmonisations. Et ensuite, il y a toute la procédure de délibération qui a été indiquée précédemment. Donc en fait, tout au long de l'année, les inspecteurs pédagogiques ont été présents auprès des chefs d'établissement, des enseignants, ont répondu à leurs interrogations pour essayer de répondre au mieux aussi aux attentes des familles et des élèves, bien sûr, dans cette situation qui est extrêmement particulière et que beaucoup d'enseignants n'ont pas vécu précédemment. Parmi les plus jeunes enseignants, certains n'ont pas connu la période Covid, par exemple. Donc c'est vrai qu'il a fallu expliquer ce qu'était le contrôle continu et comment on pouvait procéder.
J'ai le sentiment qu'on s'appuie beaucoup sur cette période de Covid, comme si il y avait vraiment des similitudes, en tout cas dans le fait d'avoir peut-être arrêté les classes, d'avoir mis en place du contrôle continu.
C'est la première expérience à grande échelle, on va dire, de recours au contrôle continu, dont les vertus, d'ailleurs, les vertus du contrôle continu, on en discutait juste avant, sont défendues depuis longtemps. Bon, il existe déjà une part de contrôle continu important. Bon, on a cette expérience accumulée pendant la crise Covid qui nous permet d'anticiper cette nouvelle échéance. Comme le dit bien l'inspectrice pédagogique, l'essentiel du travail est un travail d'harmonisation en amont de la notation. On ne touche pas aux notes, mais on se met d'accord sur des principes réglementaires et équitables, je dirais, d'évaluation des candidats, discipline par discipline, pour que tout le monde soit traité avec équité, qu'il n'y ait pas de distorsion d'un établissement à un autre. Ça, c'est pour nous la condition sine qua non. Donc c'est un gros travail d'harmonisation, et croyez-moi quand même, arriver à harmoniser des pratiques d'évaluation, ça demande un peu de travail parce que les disciplines et les professeurs de ces disciplines ont des cultures professionnelles qui peuvent différer, et donc cette harmonisation peut demander un peu de temps, mais c'est un gros travail qui est fait. Et je voudrais dans le même temps dire aux auditeurs qui nous écoutent et les parents d'élèves peut-être, s'ils ont des questions, ils peuvent naturellement se rapprocher des chefs d'établissement, qui sont les premiers à pouvoir leur donner d'ultimes réponses à des questions qui se posent. Il faut savoir que nous, avec la DEXCO et puis l'inspection pédagogique, on a produit un certain nombre d'éléments de cadrage que nous avons fournis aux chefs d'établissement. Nous les revoyons d'ailleurs, je crois, une visio, je dirais, générale de répétition des opérations dès demain. Et donc, les chefs d'établissement sont outillés, je dirais, informés, pour pouvoir répondre à des ultimes questions que les parents se posent. Et je les invite à se rapprocher des chefs d'établissement, sinon, Sinon, ils prennent contact avec le vice-rectorat et on se fera un plaisir de leur répondre.
Sylvain Ronce, les parents d'élèves ont beaucoup de questions sur des années un petit peu particulières comme celle-ci. Vous arrivez aussi à leur répondre de votre côté ?
Non, pas tant de questions que ça, oui. Parce que je crois qu'on a vécu des... Même si ce n'est pas vraiment similaire, on a vécu quand même des événements qui étaient comparables. Donc aujourd'hui, je crois que les parents font confiance à l'institution pour gérer le problème. Parce que finalement, au bout du compte, on parlait de l'harmonisation, mais ce n'est pas lié uniquement à cette période-là. Je veux dire, l'harmonisation, c'est tout le temps, quoi. Je veux dire, à chaque épreuve du baccalauréat. Donc aujourd'hui, ce qui s'est mis en place est rassurant. Parce que l'important, c'était que l'examen du baccalauréat ait lieu, que les diplômes soient là, qu'ils soient équivalents à ce qui se passe dans des temps normaux. Et c'est tout ce que les parents souhaitent. Je veux dire, ils n'ont pas envie d'avoir... Parce qu'on parle... À chaque fois, on va parler de dévalorisation des diplômes, et ça n'a rien à voir. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui est fait par le vice-rectorat, c'est véritablement un travail... C'est extraordinaire ce qui s'est passé, hein, parce que ce n'était pas simple. Comme disait monsieur le vice-recteur, le présentiel, on l'oublie, mais il a été énorme. Nous qui avons de la famille dans les enseignants et tout, on sait très bien que ce travail-là, il a été réalisé. Mais depuis le primaire jusqu'au secondaire, second cycle, je veux dire, tout a été mis en place pour qu'il y ait de moins de pertes possibles sur l'acquisition des connaissances. Donc, voilà, je veux dire, c'est tout. Moi, en tout cas, je n'ai pas de questions particulières qui remontent pour dire... Et comme dit monsieur le vice-recteur, s'il y a des questions techniques pures, les chefs d'établissement sont là pour répondre. Je veux dire, et ils se font un plaisir, en général, de répondre.
Alors, oui, il y a une autre problématique aussi qui peut intéresser les familles, hein, et c'est lié à l'examen. Il n'y a pas que la note, il y a des durées de stage ou de formation en milieu professionnel qui sont exigées à minima pour l'obtention du diplôme. On peut avoir de très bonnes notes et une bonne moyenne. Si on n'a pas fait la durée de stage nécessaire, on n'aura pas le diplôme. Mmh. Ça aussi, les décrets spécifiques de cette année ont prévu un aménagement de la durée des PFMP et des stages.
Parce que ça a été une grosse problématique aussi.
Oui, parce que outre nos enseignants mobilisés, il y a le monde de l'entreprise qui a été fortement impacté et qui est notre partenaire pour toute la voie professionnelle. Donc les élèves ont pu faire une partie des stages, et cette partie de stage, à minima quand même, est valorisée et sera suffisamment valorisée à l'examen pour se voir délivrer le diplôme. Mmh. Ça, c'est important aussi.
Si je peux me permettre de mettre à votre place et de poser une question à M. Leray, moi, il se trouve que j'ai rencontré des familles quand même ce matin qui se sont interrogées sur l'épreuve anticipée de français. Qu'est-ce qu'on peut dire aux familles qui s'inquiètent pour leur élève qui est en première et qui va confronter à des problèmes de français ?
Le baccalauréat se passe sur 2 ans, c'est toujours déroulé sur 2 ans. En première, on a l'évaluation en contrôle continu du tronc commun, histoire, géo, anglais, etc. Mmh. Ceci ne change pas. On avait la spécialité non poursuivie en terminale. Sur les 3 enseignants de spécialité, il y en a un en première, évalué en contrôle continu. Ça ne change pas. Et les 2 épreuves ponctuelles qui étaient le français écrit et le français oral n'auront donc pas lieu et sont évaluées en contrôle continu. Donc c'est la note de français obtenue dans l'année par contrôle continu qui sera valorisée en première et qui comptera pour le baccalauréat 2025. C'est pour ça que dans les décrets à paraître, il y a aussi un décret pour la Nouvelle-Calédonie pour 2025, parce que forcément, ce qu'on vit maintenant se déroulera pour les épreuves anticipées qu'en 2025.
Donc si on comprend bien, le maître mot c'était de s'adapter et de faire en sorte que tout le monde puisse passer ses examens à peu près normalement. Alors on va parler aussi peut-être rapidement en fin de cette émission de la préparation de la prochaine rentrée scolaire, même si c'est un travail au long cours. Est-ce que le contexte particulier qu'on a connu cette année vous oblige à vous réorganiser au-delà peut-être des établissements qui ont pu connaître un certain nombre de dégâts, mais peut-être aussi en contenu pédagogique, en termes de contenu dans les années ?
Sur les contenus d'enseignement, c'est prématuré. Il y aura certainement des... Quand l'école va vraiment entrer dans la phase... va sortir de la phase urgentielle. Je considère qu'on est un peu encore dans la phase urgentielle parce qu'il faut que je diplôme tous mes élèves, moi. Quand on sortira de la phase vraiment urgentielle, on réfléchira aux conditions d'évolution. La question des programmes sera traitée en histoire, la contextualisation, les langues, etc. Dans l'immédiat, le sujet qu'on traite ce matin a une répercussion directe sur les conditions de la rentrée. Puisque moi, je fais l'hypothèse que les élèves vont réussir conformément aux années antérieures. Mmh. Donc c'est sur cette hypothèse-là que j'ai construit des structures d'accueil de nos élèves à la rentrée 2025. Mais en même temps, c'est vrai, il ne suffit pas d'avoir des diplômes, il suffit de savoir où les familles veulent-elles mettre leurs enfants à la rentrée prochaine. Or, vous savez que les migrations ont été importantes à l'intérieur du territoire. Bon, il y a eu des élèves qui sont partis, vous le savez, hein, je donne ce chiffre parce qu'il y a 600 sorties hors du territoire. C'est trois fois plus que d'habitude. C'est donc beaucoup, mais ça n'est que 2% de la population totale. Donc ça ne va pas complètement déséquilibrer le système calédonien. En revanche, il y a eu beaucoup de mouvements internes. Donc il y a des familles qui sont parties dans les îles, peut-être. Peut-être vont-elles revenir. Et ça, c'est, ces questions-là, je n'ai pas encore les réponses. Donc c'est vrai qu'il y a une petite incertitude sur les conditions de la rentrée, sur la manière dont les classes seront effectivement remplies, ici ou là, compte tenu des choix des familles. Mais nous, on est vraiment dans l'idée qu'on ne mettra pas davantage en péril le fonctionnement des établissements qui ont été beaucoup secoués pendant 6 mois. Donc on va essayer de faire des conditions de rentrée pas trop dures. C'est-à-dire que si les classes ne sont pas trop chargées, ben on ne les laissera pas trop chargées. Et s'il faut ouvrir ici ou là des classes, eh bien on le fera pour quand les ajustements d'effectifs seront opérés.
C'est la première fois qu'on a autant d'incertitudes sur une rentrée scolaire. Peut-être, Sylvain Ons, de mémoire...
On peut l'expliquer, hein, l'incertitude, c'est simple. Je veux dire, il y a quand même des établissements qui ont fermé, il y a des parents qui sont partis. Bon, même si on quantifie que 600 élèves qui sont partis, mais il y a beaucoup qui sont partis sur les îles ou qui ont réintégré l'intérieur du territoire pour des raisons de sécurité. Hein. Mais certainement, il y a 9 chances sur 10 qui reviennent. Parce que ce qui se passe, l'enseignement dispensé à Nouméa est quand même plus sécurisant pour les parents. Mais quelque part, ça va laisser des traces, forcément, quelque part. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et je veux dire, il y a des établissements qui sont encore bien dégradés, qu'on ne va pas réouvrir tout de suite pour diverses raisons. Et notamment, en termes de population scolaire, elle n'est plus aussi importante que prévu. Donc, il n'est peut-être pas nécessaire de laisser des établissements ouverts pour... qui accueillent 350 élèves alors qu'ils peuvent en accueillir 6 ou 700. Donc aujourd'hui, tout ça va être réparti. Ce que dit M. le vice-recteur, ce qui est important, c'est de veiller à ce que les classes ne soient pas surchargées, qu'elles soient ouvertes, peut-être ouvertes une ou deux classes supplémentaires, que les professeurs soient affectés dans des établissements où il y a moins de risques. Mais là aussi, le travail il a commencé depuis un certain temps chez le vice-rectorat. Pour préparer la rentrée 2025, c'est déjà presque dans les cartons, je veux dire. Ça fait partie de ces choses qui sont prévisibles un an à l'avance. Donc aujourd'hui, là, je ne pense pas qu'on ait de soucis particuliers là-dessus. La seule chose, c'est qu'on espère qu'on ne revivra pas des événements aussi compliqués. Mais au-delà de ça, non, je crois que ça va bien se passer.
Isabelle Amiot, sur les classes et les effectifs, après une période aussi difficile que celle-ci pour les élèves, c'est important d'avoir des classes avec des petits effectifs pour l'année prochaine. C'est un objectif quasiment en termes de pédagogie.
Alors ça, c'est une partie d'un autre service du vice-rectorat. Après, le rôle d'un enseignant, c'est de s'adapter avec le nombre d'élèves qu'il a, de toute façon. Et donc, les professeurs sont habitués à recevoir les élèves dans les classes, quel que soit l'effectif.
Je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup de compréhension en même temps, parce qu'il faut se souvenir, 6 mois après, de l'ampleur du choc externe que le secteur scolaire a subi. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans des conditions d'apaisement, je suis le premier à m'en réjouir, mais il ne faut pas oublier la violence du choc d'il y a 6 mois. Et donc, le chemin parcouru est important et donc il faut souligner cet aspect-là et que ce qui fait la valeur d'un diplôme, c'est la capacité qu'il offre à poursuivre son parcours. Bien, les diplômes qui vont être attribués vont permettre aux élèves de poursuivre leur parcours scolaire ou professionnel.
Mais en tout cas, on leur souhaite beaucoup de réussite. Merci à tous les quatre d'être venus ce midi sur le plateau du magazine Citoyen.
Merci.
Une interview que vous pourrez réécouter également sur notre site internet le www.rrb.nc. Il est midi passé de 32 minutes. La suite, c'est le Café Gourmand. Et ensuite, vous retrouverez Jean-François Bodin à 13h pour le rappel des titres.
Le magazine Citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.